Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'un pugilat fratricide pour eux. Car même confinés, chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 continuent de s'affronter au service de votre culture. J'ai un seul sera élu chroniqueur du jour et ça ne sera certainement pas Eva Rock. Bonjour
quoi,
Eva.
Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Mathieu, alors, bonjour à tous. Ça commence très bien comme introduction.
D'une part, car vous êtes toujours hors compétition.
Oui.
Et d'autre part, parce que même si vous l'étiez, ce n'est pas avec la vivacité qui est la vôtre actuellement et votre tension qui doit se situer aux alentours de 10-4 que vous pourriez l'emporter. Usain Bolt, le recordman du monde du 100 mètres, disait « La clé, c'est le démarrage.
Ah oui,
si on foire le démarrage, on finit dans les choux. We finish in the cauliflower » dans le texte. Or, question démarrage, hier Eva, on pouvait difficilement faire pire, souvenez-vous. Oui. On va essayer de continuer sur ce rythme, Eva. Si c'est un effet de votre bonté, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé et sur les écrans ce soir.
Vous allez voir, qu'est-ce qu'il y a ce soir ?
Et oui, donc je rappelle que votre métier, c'est de nous dire ce qu'on regarde à la télé. Voilà comment a commencé l'émission d'hier.
Non, mais j'étais un peu paumée. C'était, voilà, parce que j'ai trop de choses à vous conseiller. Et donc, résultat, je savais plus où j'en étais. Voilà, exactement.
Est-ce que vous êtes plus réveillée aujourd'hui?
Je suis beaucoup plus réveillée. Et accrochez-vous, parce que notamment dans la deuxième partie de l'émission, pour le 17 minutes de gagner, on va aller voir un documentaire extraordinaire.
Ah, on n'en dira pas plus.
Non, je n'en dis pas plus. Non.
Je pensais que vous auriez préparé une petite note avec le titre et tout ça pour pouvoir
faire
plaisir, mais non.
Non.
D'en savoir plus. Mais d'abord, Eva, c'est notre petit plaisir du confinement. Chaque après-midi, à défaut de pouvoir les accueillir en studio, on prend des nouvelles de nos stars préférées. Aujourd'hui, une star avec un grand S, un chanteur frappé de plein fouet par le confinement, puisque ses deux plus grands tubes tombent désormais sous le coup de la loi.
On allait au bord de la mer.
Ah bah non, c'est
Michel,
vrai,
interdit. Quant à son autre tube,
un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz.
Et non plus. Bonjour Michel Jonas, tout ça c'est interdit aujourd'hui.
Bonjour, très drôle. J'avais pas réalisé.
Ah bah nous, voilà. Oui, hein. On est
Michel.
Malheureux.
On est malheureux, mais on est très heureux de vous avoir en ligne aujourd'hui, Michel Jonas. J'ai l'habitude de dire très franchement aux invités ce que je pense d'eux. Je suis un immense fan de tout ce que vous faites depuis très longtemps. J'ai lu, je me suis un peu renseigné. Il paraît que vous bossez, vous faites partie des artistes qui sont inspirés par le confinement. J'ai entendu parler d'un nouvel album qui se préparait, alors que le dernier vient de sortir en octobre.
Oui, c'est vrai, je prends de l'avance. Je profite du moment de solitude pour écrire, parce que c'est ça dont j'ai besoin. Donc effectivement, j'ai ressorti mes stylos plumes, mes cahiers, et je prépare le troisième volet d'une trilogie que j'avais commencé il y a longtemps, c'est-à-dire hommage aux différentes musiques qui m'ont inspiré dans ma vie. Donc j'avais fait l'hommage à la musique tzigane à travers une pièce de théâtre à Brahms, j'avais fait l'hommage à la chanson française avec un album La Chanson Française, et il me manquait le volet de l'hommage au blues et au rock'n'roll. Voilà, donc c'est ça que je suis en train de préparer. Donc je suis content, oui, c'est vrai, ça me plaît de me remettre à écrire comme ça.
Alors, on va en parler de votre processus de création actuel pendant le confinement. Vous allez nous raconter aussi comment se passe votre confinement. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier, je tiens à le signaler, n'est là que parce que son sujet musical peut potentiellement vous intéresser. Sinon, je l'aurais écarté pour crime de lèse-majesté la dernière fois. Je lui ai donné plusieurs surnoms. Le Félon du 9-2, le Judas de Malakoff. Oui, sous prétexte qu'il m'a connu stagiaire, Jean-Philippe Ballas fait partie de ces journalistes rebelles qui osent défier mon autorité, voire se foutre ouvertement de ma gueule, comme j'ai pu le constater en écoutant cet enregistrement hors antenne mardi dernier.
Salut les amis.
Salut Eva.
Salut Eva. Comment ça va ?
Ça va et vous ?
Oui, bien.
Ça va.
On attend Mathieu.
Mathieu qui ?
Oh là là.
Mathieu qui ne vous salue pas, Ballas. Exposez plutôt votre sujet passionnant à Michel Jonas, ça l'intéressera peut-être.
Et moi aussi, je suis un grand fan de Michel Jonas. Alors, à ma gauche, j'ai Donald Trump, bon, c'est bof, mais à ma droite, j'ai une trompette. Et là, c'est intéressant parce que si je mets les deux ensemble, ça fait une Donald Trumpette. Je vous parlerai d'un jeune musicien qui joue en simultané sur les discours politiques les plus relous et qui en fait des morceaux de free jazz. C'est merveilleux.
Ça donne le là de l'humour dans cette émission. C'est un très très bon jeu de mots en tout cas. Face à vous, Jean-Philippe, par la magie du téléphone, un journaliste beaucoup plus discipliné et respectueux de l'autorité que vous. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il a été choqué par votre réflexion désobligeante à mon égard tout à l'heure. Pas vrai, Axel ?
C'est quand la vulgarité rejoint l'ignominie.
Merci Axel, qui est finement analysé. Axel de Tarlé, bonjour.
Bonjour, moi je tiens à dire que je suis un grand fan de vous, Mathieu Noël.
Oui,
j'ai appelé monsieur le directeur maintenant.
Vous êtes, Axel, l'expert économie d'Europe 1. Et aujourd'hui, vous nous parlez du marché de l'immobilier qui lui aussi est confiné. Il est à l'arrêt, sauf pour les recherches de maisons qui, elles, progressent en flèche. Désormais, tout le monde veut un jardin, c'est ça l'idée ?
Oui, ça c'est un premier effet du confinement. Il y a les premiers chiffres qui viennent de tomber sur l'immobilier qui montrent en effet que tout le monde maintenant rêve d'acheter une maison dans l'immobilier. Les requêtes, vous savez, on est obligé de cliquer, les requêtes pour les maisons ont bondi de 20 points, c'est sur le site Se Loger. Elles représentent désormais 65% des recherches. Vous voyez, on ne veut plus vivre en appartement, on veut une maison avec un grand jardin pour se faire des barbecues.
On veut tous des barbecues.
Les gens ont intégré le confinement, confinement.
Mais parce qu'il y en aura peut-être d'autres.
Ouais.
Aura peut-être d'autres. Merci Axel, le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Parotin, l'équipe est sauvage.
C'est donc un chanteur heureux qui est avec nous en ligne aujourd'hui puisqu'il vient d'apprendre que sa maison venait de prendre 20% de sa valeur. Je crois, Michel Jonas, que vous avez la chance d'habiter une maison.
Oui, non, mais ça, je peux le comprendre. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une maison. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir être dans mon jardin. Et puis surtout quand il a fait beau ces derniers temps, etc. Ça ne veut pas dire que je ne compatis pas avec toutes les souffrances et toutes les douleurs qui nous entourent, avec ces chiffres égrenés tous les jours de décès, etc. C'est terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'on s'habitue. On se dit, ah, combien aujourd'hui ? Et on se demande, si on nous dit, il y en a 300 de moins, est-ce qu'on a de la peine ? Moins.
Mais
vous voyez, c'est bizarre, quoi, comme situation.
On vit des moments bizarres, effectivement.
Ah oui,
Michel
Jonas,
moi, j'ai une question pour vous. J'ai envie que vous nous révéliez un petit secret. Mmh. Je vous imagine, là, dans votre jardin. Où est-ce qu'écrit Michel Jonas ? Vous êtes dans un bureau, vous êtes justement dans le jardin, en marchant. Comment ça se passe,
la
création ?
Alors, quand il fait beau, je suis dans le jardin. Effectivement, j'ai la chance d'avoir juste derrière moi un jasmin qui est tout en fleurs et qui embaume, c'est magnifique, le parfum du jasmin, c'est incroyable. J'ai un très beau marronnier qui en fleurs, etc. Et quand il fait froid, je suis à l'intérieur avec tous mes cahiers, etc. Voilà.
Un jour, à ce micro, Michel Jonas, Amélie Nothomb, l'écrivaine, nous disait qu'elle avait des dizaines, voire une cinquantaine en tout, de romans qu'elle n'avait jamais publiés, qui dormaient dans ses tiroirs. Quand on connaît votre perfectionnisme, il paraît que vous aussi, vous avez des chansons d'avance. Est-ce que vous êtes un peu ce syndrome Amélie Nothomb ? Vous avez beaucoup de chansons dans vos tiroirs ?
Oui, alors moi j'ai des valises de cahiers. J'écris sur des cahiers d'écolier, moi. Et j'ai des valises, mais c'est vraiment, c'est pas une image. Hein. C'est vraiment des valises remplies de mes cahiers d'écolier. Parce que vous pensez, depuis le temps que j'écris des albums, et quand j'écris un album, j'écris pas 12 chansons, j'en écris une trentaine. Mais ça veut pas dire qu'il y a 30 chansons qui sont prêtes à être enregistrées. Ça veut dire que c'est des débuts, ou bien c'est quelque chose qui me manque, ou bien c'est une strophe qui me manque, etc. Et à chaque fois que je me remets à écrire et à préparer un album, je me replonge dans tous ces cahiers, ce qui fait déjà un certain travail à faire. Oui, je suis comme ça, c'est-à-dire que même si j'avais aujourd'hui plus d'inspiration, ce qui est heureusement pas le cas parce que j'adore écrire le nouveau, mais effectivement, je pourrais enregistrer quelques albums encore.
Eh bien, cet été, on n'ira peut-être pas en vacances au bord de la mer, mais on pourra toujours l'écouter. Michel Jonas fait un bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, c'est fou de se dire qu'un même instrument entre les mains de Chet Baker et entre les mains d'Eva Rock sonne si différemment.
Putain, non, mais
presque
c'est
comme deux instruments différents. Hein.
Vous pouvez pas faire ça.
Aujourd'hui, Jean-Philippe Ballas vous parle d'un musicien qui s'est amusé à convertir les discours des politiques en jazz. Le type s'appelle Jeremy Trumpet et je vous livre telle quelle la question authentique d'Eva Rock hier dans notre groupe WhatsApp. Je cite, Jeremy Trumpet, c'est son vrai nom. La rencontre rock-trompette, c'est juste après Nuit Tropicale. Michel Jonas sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la compétition déjantée qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes de la rédaction d'Europe 1. Les meilleurs, mais aussi parfois, vu que l'invité les note, les plus flagorneurs. Fred Goetti, Ève Roger, Axel de Tarlet, Jean-Philippe Ballas, à tour de rôle, ils y vont de leur litanie de compliments, à tel point qu'un célèbre refrain de notre invité Michel Jonas me vient en tête à chaque fois que je les entends cirer ainsi les pompes de l'invité en off.
Bonjour, vous allez bien ? Bravo, alors j'imagine que tout l'album est comme ça, mais alors le single est une tuerie.
Lécheur de boules.
Bon, Mathieu.
On est des lécheurs de boules.
Quand on écoute vos morceaux, il y a toujours quelque chose d'évident et de simple en apparence. Et non, mais vous avez toujours ce truc assez étroit. Enfin bon, ça doit être le talent, mais...
Jean-Philippe Ballas, vous êtes notre expert musique et déroulage de tapis rouge pour invités exigeants.
Mathieu, un, c'est vulgaire. Et deux, s'il y en a bien un qui fait son Michel Drucker avec les invités, c'est vous.
Ah, ça, c'est vrai. Ah bon.
Vous savez à qui je parlais à ce moment-là?
À qui?
Je parlais à Benjamin Biolay. Et donc je persiste et je signe.
Ah, oui.
Et je note que Sébastien Bordenave, qui travaille avec vous sur cette émission, va écouter les rushs des interviews. Et ça, je trouve ça absolument odieux.
Ah, c'est une véritable petite fouine, une hyène. Aujourd'hui, Jean-Philippe, vous nous faites découvrir un trompettiste assez génial. Il s'appelle Jérémy Trompette. Première question que tout le monde se pose évidemment, surtout Eva, c'est est-ce que c'est son vrai nom?
Mais non, c'est pas son nom.
Son vrai nom, c'est Jérémy Lecomte. Alors, c'est vrai que c'est un trompettiste. Et c'est vrai qu'il transforme n'importe quel discours en morceau de musique, un peu jazz. Vous allez comprendre, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance. Ouais. D'abord, je vous fais écouter quelques secondes d'un meeting classique de Donald Trump.
New Mexico, which I think we're going to win. You know why we're going to win New Mexico? Because they want.
Donc là, je traduis pour ceux qui parlent pas anglais. Il parle encore des murs, hein, Donald Trump, c'est son grand truc. Et maintenant le même discours, mais avec la musique.
Ah, c'est génial.
C'est pas du tout la même chose.
Hein. Ah bah non.
C'est mon coup de cœur absolu de la semaine. Alors, il s'appelle Jérémy Lecomte, c'est un jeune musicien professionnel. Il cartonne en ce moment sur YouTube et mine de rien, c'est très fort là ce qu'il réussit à faire.
Ah, oui.
Parce que c'est pas juste pour rire, c'est un exercice qu'il a inventé pour pratiquer son instrument, pour travailler les relevés de musique, son oreille et le rythme. Tout ça est écrit sur partition, c'est pas du tout de l'improvisation. Et alors, pour mieux comprendre comment il fait, je vais passer un coup de fil et vous explique tout ça.
Alors, je commence par les notes, la hauteur des notes. Je note ça sur partition. Je rajoute une batterie ou un métronome que parfois je garde pas dans la vidéo finale. Enfin, voilà, il y a aussi une utilité parce que ça me fait travailler l'oreille, le rythme. Et à chaque fois, enfin, ça me fait la surprise à moi aussi, en fait, quand j'ai le résultat final. Les retours sont vraiment sympas, ça me motive. Ça a l'air de faire rigoler un peu tout le monde. Mais ouais, à chaque fois, c'est super intéressant. Puis je m'amuse franchement, quoi.
Française, français, mes chers compatriotes. Nous sommes en guerre. C'est pourquoi, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale,
les étudiants...
Bon, ça, vous avez reconnu.
C'est génial.
Ah, ouais.
C'est l'une des dernières allocutions d'Emmanuel Macron. Vous avez plein d'autres vidéos sur le net. Alors, parfois, il utilise même des discours étrangers, Jérémy Lecomte. Il a travaillé sur du Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la musicalité, en fait, n'est pas la même d'une langue à l'autre. Et alors, moi, j'ai un petit chouchou dans toutes ces expériences. C'est l'un des mix les plus réussis à mon goût. C'est un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez.
Non, mais je suis d'accord. Non, mais donc, vous avez un âge de départ à la retraite, mais bon, c'est pour dire. Et vous avez un âge d'équilibre. Et si vous n'êtes pas à l'âge d'équilibre, quick, ça décote. Voilà, vous avez tout compris. Non, mais je vous le mets en scène, pas avec les jolis mots, les belles expressions. Vous avez la liberté de choisir votre investissement dans la vie pour libérer les énergies. C'est pas comme ça que je parle, là.
Franchement, foncez le voir sur Internet.
Oui.
Je vous redonne son nom, il s'appelle Jérémy Lecomte. Il a une chaîne YouTube, il a aussi un compte Twitter depuis quelques jours. Ses vidéos sont extrêmement partagées et franchement, je trouve ça génial.
Et puis, il s'appelait Jérémy Trompette, c'est quand même rigolo.
C'est déjà incroyable. À l'état civil, c'est très rare. Et s'appeler Jérémy Trompette et devenir trompettiste.
Mais
c'est
ça.
Fou.
Oui,
c'est fou. Merci.
Pianiste, ça aurait été moins drôle tout de suite.
Ah,
quoi.
Non, mais voilà. Le hasard fait bien les choses parfois. Merci, Jean-Philippe Ballas, très à l'aise aujourd'hui. Et ce, même sans avoir beaucoup bossé en amont, me disiez-vous.
Enfin bon, ça doit être le talent, mais...
Certainement. Je ne vois pas d'autre explication, Jean-Philippe.
Europe 1.
Égayez votre confinement et notre mission, mais nous nous devons également d'être un rayon de soleil pour les stars qui nous écoutent et auxquelles, chaque après-midi, on passe un petit coup de fil, histoire de vérifier que le moral est bon. Hier, on était en ligne avec l'humoriste Florent Père, qui était assez nostalgique, hein, il faut le dire. Quand je lui ai rappelé que la dernière fois qu'il était venu, c'était en studio et en public, on l'a senti très ému.
Oh, c'était la belle époque. Je me souviens que j'avais eu un petit échange de regard avec quelqu'un du premier rang, une jolie demoiselle de 75, 80 ans, je ne sais pas, qui m'avait fait des œillades pendant toute l'émission. Nous sommes confinés ensemble depuis, d'ailleurs, et bref, on vous enverra des photos.
Quel secret de star nous réserve la suite de cette émission? Restez avec nous, aujourd'hui, on prend des nouvelles de Michel Jonas.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage confinée, un confinement qui, vous le savez, va durer jusqu'au 11 mai. Mais Édouard Philippe l'a expliqué hier, les mesures de distanciation sociale vont, elles, être maintenues tout l'été. Un coup dur pour tous les Français, mais surtout pour notre invité Michel Jonas, qui va être contraint de réécrire un de ses plus grands tubes. Car oui, jadis, avant le Covid.
Oh là là.
On allait peut-être au bord
c'est pas possible.
Mais cet été, on l'a dans le derrière. Le soir, on enfilera des gants pour aller se torcher au vin blanc. Mais il faudra faire attention à ne surtout pas oublier son attestation.
Vous êtes dingue, hein?
Sous peine de finir en tôle. Quand je pense que l'été dernier encore, Eva regardez les bateaux, elle succédait.
Nostalgie, on ne continuera pas la chanson. On a une chance cet après-midi dans l'équipe Sauvage, c'est d'être avec le vrai Michel Jonas, celui qui sait chanter.
Bravo. Non, ne lui dites pas ça, ça va l'encourager, il va vouloir le refaire. Donc,
je vous en prie, Eva. On parle du déconfinement annoncé pour le 11 mai. Est-ce que c'est une perspective qui vous enchante, qui vous inquiète, Michel Jonas? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à tout ça?
Alors, moi déjà, par rapport à ce que vous venez de chanter là, j'espère quand même qu'on pourra y aller à la mer cet été, déjà premièrement. Alors, j'ai plusieurs sentiments, c'est-à-dire que je commence à avoir un petit manque, une frustration sur deux plans. D'abord, vraiment, la scène commence vraiment à me manquer psychologiquement et physiquement, mon corps. Mmh. Et puis, évidemment, de prendre un ami dans mes bras, quoi. Ça commence à être lourd. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Et c'est très curieux parce que, bon, moi, je fais mes courses. J'aime bien faire la cuisine, etc. Et alors, ce truc de se regarder un peu en chien de faïence, ça, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et paradoxalement, en même temps, on se dit bonjour avec certaines personnes comme jamais avant. C'est-à-dire, on croise quelqu'un, tiens, bonjour, ça va. C'est là on sent qu'on a vraiment besoin des autres, quoi, et qu'on a besoin de se voir, de se croiser, de se toucher, etc. Vous voyez, quand on fait des courses, alors on fait la queue, etc. Puis alors, il y a un truc qui m'a vexé l'autre jour. J'arrive devant un grand magasin et une dame me dit, moi j'avais un masque, hein, j'avais un masque et j'avais une casquette. Et la dame, elle me dit, ben, vous n'avez pas besoin de faire la queue, vous avez plus de 70 ans. Oh, putain, ça m'a vexé. Je me suis dit, mais comment cette dame, elle a pu voir que j'avais plus de 70 ans? Ça m'a...
Mais, Michel Jonas, plus sérieusement, quand vous avez entendu, il y a quelques semaines, le gouvernement dire les plus de 65 ans, les plus de 70 ans, vont avoir un confinement un peu plus long que les autres, comment vous avez réagi, hein?
Ça, c'est le truc qui m'a un petit peu agacé.
Ouais.
Ça me gêne parce que moi, je pense pas qu'on a un âge. On en a plusieurs. On a évidemment l'âge qui est marqué sur la carte d'identité. Mais aussi, on a l'âge qu'on pense avoir dans sa tête. Hein. Ma mère, un jour, m'a dit, je raconte souvent ça, mais un jour, à 94 ans, elle me dit, tu sais, Michel, moi, je suis toujours aussi jeune, mais ça se voit moins. Et moi, je suis un petit peu dans c'est vrai, c'est cet esprit-là. Et puis, le corps, vous pouvez avoir un corps en parfaite santé à 70 ans et un corps un petit peu abîmé à 40. Donc, ça veut rien dire et j'ai eu peur. Et donc, moi, j'étais rassuré quand même quand ils ont dit non, on va pas faire ça, on va pas les obliger, les anciens, à être confinés plus longtemps. Et puis, l'autre chose qui m'a rassuré aussi, c'est que j'ai vu qu'ils avaient annoncé que les rassemblements de plus de 5000 personnes allaient être interdits. Donc, moi, vous savez, tous mes spectacles, je les ai reportés, on en avait beaucoup, je les ai reportés en septembre, octobre, novembre, décembre, on a trouvé des dates. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, j'espère. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un siège sur deux? Est-ce que les gens vont venir au concert ou au théâtre avec un masque? Ça va faire bizarre. Est-ce que moi, je vais être obligé de chanter avec un masque? Je ne sais pas si je vais pouvoir, franchement.
Comme ça, vous chanterez peut-être aussi mal que moi, Michel.
Ah non.
Ça vous rapprochera de moi. Si vous mettez un masque, on sera à égalité. Michel Jonas, on était vraiment ravis de vous avoir un peu en ligne avec nous cet après-midi. On vous retrouve très vite, on l'espère, pour un live en studio, en public.
J'espère.
On se quitte sur quelques notes de ce morceau fabuleux qu'on a écouté, mais c'est tellement bon qu'on se remet le refrain. J'ai eu un coup de foot pour ce morceau dès que je l'ai entendu,
comme
je l'ai reprogrammé. Merci beaucoup,
merci
Michel Jonas, d'avoir été avec nous. Et plus globalement, merci d'exister.
Oh, merci beaucoup.
Europe 1.
L'immobilier va-t-il s'effondrer à la sortie du confinement ou au contraire rebondir? Axel de Tarlé, notre expert éco, s'est penché sur la question et une tendance se dégage déjà nettement. Confinés, les Français qui cherchent à déménager privilégient désormais les maisons et boudent les appartements. On pourrait appeler ça la revanche du jardinet. titre de film, ça, Eva, non ?
On va faire semblant de pas avoir entendu, hein, ouais.
Bon, rabat-joise, la revanche du jardinet arrive juste après une nouveauté. Son Little Heroes sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Brillé par son travail d'enquête journalistique, la clarté de son analyse ne suffit pas à s'imposer dans la grande compète des journalistes d'Europe 1. Dans ce western sans foi ni loi qui est devenu l'équipée sauvage, Axel de Tarlet l'a compris mieux qu'aucun autre, il faut également humilier ses rivaux. Là où Axel, le dauphin myope, a commis une grave erreur lundi, c'est qu'il a confondu ses concurrents avec les arbitres du match, en l'occurrence Eva et moi. Alors certes, avec son quiz à la con, il nous a bien humiliés, mais il n'a pas vu la couleur d'un point.
Un petit quiz amusant. Le Gers, ah ah, c'est quelle région le Gers?
Auvergne...
Non. L'Occitanie. La Corrèze, c'est quelle région?
Centre.
C'est le centre, oui.
Non, c'est une catastrophe, c'est la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, bon, bah ça va, Axel. Hein.
Je vois que je tape un peu haut avec mon quiz, j'aurais dû faire plus simple.
Aujourd'hui, Axel, si vous avez des questions cons à poser, posez-les directement à Jean-Philippe Ballas, lui, il vote pas. Hein.
Oui, ben, si vous voulez, je peux faire une remarque sur sa chronique. Je la trouve, si je peux me permettre, mon Jean-Philippe, inachevée, ta chronique.
Ah, là, autre chose.
D'abord, vous ne me tutoyez pas.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Axel?
Ben, si c'est moi qui l'avais faite, j'aurais demandé à Jérémy Trompette d'imiter un discours ou un laïus de Mathieu Noël. Ça, c'eût été drôle. Ça, c'eût été une façon de clouter la chronique.
Non, mais c'est pas possible.
Voilà,
hein.
Inachevé.
Non, mais attendez.
Alors, Jean-Philippe, un droit de réponse?
On ne tire pas sur les
ambulances. Oui, non, on est d'accord. on est d'accord, Jean-Philippe.
Oh, pauvre Axel.
Bon, Axel, aujourd'hui, chronique sérieuse. Ouais.
Vous nous parlez d'immobilier. Les Français ont une envie en ce moment, une maison avec un jardin.
Exactement, puisqu'il y a Se Loger qui vient de publier les tout premiers chiffres, donc post-confinement des recherches immobilières, et on s'aperçoit que les requêtes pour une maison ont bondi de 20 points. Elles représentent désormais 65% des recherches, donc elles sont devenues largement majoritaires. Il y a un autre site immobilier qui s'appelle Bien Ici, qui montre que, vous savez, quand vous cochez, vous pouvez cocher des critères sur les maisons, mais à ceux qui cochent jardin ou terrasse, plus 43%. Et il y a un dernier critère également qui montre que les transactions qui ont été finalisées, alors vous savez, à la fin, il y a toujours une ultime négociation. Et bien, quand c'était pour acheter des maisons, les acheteurs ont surenchéri. Par rapport au prix, d'origine, ils étaient prêts à payer plus. Alors que pour les appartements, ça a été le contraire. Toutes les transactions fin mars, on s'est aperçu que les vendeurs ont dû faire d'ultimes concessions, revoir leurs prétentions à la baisse pour finaliser la vente. Ce qui veut bien dire que, avec ce confinement, il y a un appétit. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, maintenant, on sait tout de vous, avec le big data, tout ça, comme on dit, on s'aperçoit que ceux qui recherchent des maisons, ce sont souvent des jeunes. Donc des jeunes, bah s'ils recherchent des maisons, c'est qu'ils cherchent plus d'appartements.
Oui, mais je peux me permettre une question.
C'est un raisonnement infaillible, Eva.
Oui, Axel, bon, on comprend que les gens aient envie d'extérieur en cette période de confinement. Est-ce qu'ils cherchent pas non plus aussi à s'éloigner des villes, les villes et les grandes villes notamment, qui ont été souvent ce qu'on a appelé les clusters, c'est-à-dire des endroits où le virus s'est propagé plus facilement.
Je crois que si vous voulez pour les jeunes, d'abord ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les bienvenus en centre-ville ou au fond
c'est trop cher.
Pas
en plus,
foyer.
Oui.
Bah oui, c'est trop cher. Donc vous ne pouvez pas vous projeter en couple et avoir des enfants en centre-ville. Et peut-être que le déclic, ça a été, vous savez, pour des ingénieurs ou des cadres, il y a aujourd'hui un quart quand même des salariés qui sont en télétravail. On se dit, mais on va peut-être pouvoir s'organiser.
On découvre que ça marche, le télétravail.
Et oui, on s'aperçoit que ça marche. Et on dit, peut-être qu'on va pouvoir s'organiser et peut-être que je n'aurai pas ou en tous les cas, à venir aux heures de pointe dans les grandes villes.
Bah écoutez, moi-même, je voulais vous en parler, à la direction d'Europe 1. Je trouve que ça marche pas mal, ce système de ligne chez soi. C'est pas mal. Voilà, on pourrait l'envisager peut-être sur le long terme.
Ouais, mais votre canapé est défoncé, donc il va falloir trouver une solution.
Si je vends mon appartement à Paris, j'aurai de quoi en acheter un autre, tranquillement, à la campagne, voilà, on sera bien.
Voilà. Et à contrario, il y a quelque chose qui a été très révélateur. C'est ce que disent les agents immobiliers. Au fond, on ne cherche plus un logement en ce moment, on se rend compte qu'on cherche un lieu de vie. Vous avez vu tous ces Parisiens qui ont fui la capitale? Paris est le seul département qui a perdu des habitants avec le confinement. Hormis le ski, mais ça c'était pour d'autres raisons. Ce qui veut bien dire que quand les gens se disent « Tiens, j'ai du temps à passer, où est-ce que je vais être bien ?» Eh ben c'est pas dans mon petit appartement parisien, c'est pas dans les petits appartements des grandes villes, qui sont des appartements qui, à force d'avoir été optimisés par les promoteurs immobiliers, sont devenus des appartements invivables. Franchement, ces chambres de 9 mètres carrés, là, où on se dit, tiens, bah, c'est parfait, comme ça, tac, 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 c'est des chambres très bien pour dormir. mais c'est pas des chambres où on passe une journée dans un 9 mètres carrés. Et donc, bah voilà, il y a au fond, il y a de se dire, allez, on a besoin d'espace, on a besoin de vivre, on n'a pas besoin que de dormir dans un logement. Et bah oui, c'est peut-être ça combiné avec le développement du télétravail qui s'est installé dans la vie professionnelle, pour ceux qui le peuvent bien sûr, mais enfin, je rappelle, 25% des salariés sont en télétravail, et bah c'est peut-être la revanche des villes moyennes sur ces grandes métropoles arrogantes et devenues trop chères de toute façon pour tous nos jeunes.
La revanche des villes moyennes, lui, il s'est clouté une chronique, prenez-en de la graine, Jean-Philippe Palas. Merci Axel de Tarlé. Comme j'ai toujours pas digéré en fait votre guet-apens géographique de lundi, juste pour être sûr qu'on vous raye bien votre Laguna si jamais vous descendez dans le sud cet été. 5 secondes de Rému dans la trilogie de Pagnol.
Et voilà, j'ai habité Toulon, moi, alors c'est pour ça l'accent du sud, je sais bien le prendre.
Ah oui, là, c'est bon.
Voilà, merci, ouais. Elle va bien être rayée la Laguna. Europe 1. Depuis les sophistes sur l'Agora, jusqu'à Danton dans la salle du jeu de paume, l'art oratoire a toujours été pour les hommes et les femmes un moyen de briller et de laisser leur empreinte dans l'histoire. Et Baroque le sait,
non.
C'est pourquoi dans le quiz qu'il opposait jadis à l'invité, elle s'employait à pratiquer un français parfait, à même de déstabiliser son adversaire. Clé de voûte de sa méthode, des enchaînements logiques parfaits. Car comme disait Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et pour ce qui est de s'énoncer clairement, Eva ne nous déçoit jamais. Hier encore, dès les premières secondes de l'émission.
Vous allez voir, qu'est-ce qu'il y a ce soir? J'ai déjà... Oh, ah non, si. Non, mais si. J'ai écrit, et forcément, ce dont je vais vous parler, mais tout en commençant à regarder ce dont je vais vous parler dans les heures qui suivent. Enfin, là, demain, après-demain. Mais voilà, vous allez être content.
Écoutez, votre phrase était aussi très chaotique.
Vous allez être content.
Mais on a réussi à comprendre ce que vous vouliez dire.
Non, elle était très claire.
La clarté du raisonnement était votre grande force, Eva. Souvenons-nous de ces jours glorieux. Le meilleur du quiz à suivre.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
C'est un phénomène qui, avant l'épidémie du coronavirus, intriguait beaucoup les scientifiques. Comment expliquer l'incapacité totale des Varocs à remporter ne serait-ce qu'une seule victoire dans le quiz de Culture G qu'il opposait à l'invité quand on avait encore un invité? Le mystère était entier. Oui, c'est vrai que je triche un peu.
Bon,
le mystère était entier. Jusqu'à ce qu'il soit élucidé hier, en un instant, on a compris ce qui se passait. Le problème n'était pas situé au niveau du cerveau d'Eva, mais au niveau de sa bouche.
Oh,
et là, on peut parler d'un manque criant de professionnalisme. Puisqu'en effet, alors que chacun sait qu'il ne faut pas manger avant de faire de la radio, hors antenne, Eva avouait s'être enfilé un demi-pot de Nutella avant l'émission, à la stupéfaction d'Hélène Kohl, notre rigoureuse correspondante en Allemagne.
Mais comment tu fais pour faire de l'antenne en ayant mangé du Nutella? Ça fait saliver un peu, non?
Mais c'est vrai, Eva! Pourquoi pas une choucroute tant que vous y êtes avant l'antenne?
C'est
scandaleux. C'est scandaleux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est l'escroquerie?
Je pense que c'était vous qui avez mangé un pot de Nutella.
Ouais, moi, je suis fin comme un bambou. Je ne mange pas de Nutella.
Ouais,
ne dites pas n'importe quoi. Mais vous avez peut-être raison. On écoute les meilleurs moments du quiz. Gérard Darmon, on va faire un quiz sur le cannabis rapport à Family Business, une série où vous lancez dans ce commerce florissant. C'est un vrai faux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Je rappelle que le cannabis, c'est mal.
Oh, t'as pas toujours dit ça.
Oui, non, mais ce que je dis en tête, c'est autre chose, Eva. Bien. Gérard Darmon, dans un restaurant du Maine, aux États-Unis, le propriétaire donne du cannabis au homard avant la cuisson pour les déstresser. Vrai ou faux?
Oh, je pense que c'est tellement improbable que ça doit être vrai. Je vois très bien faire ça, c'est crétin.
Vous avez raison, c'est vrai. Les homards sont sous l'eau, dans une boîte fermée. Du cannabis est soufflé dedans pour qu'il soit apaisé avant de passer à la casserole. Problème, petit problème, la molécule qui apaise n'est pas hydrosoluble. En clair, ça ne sert à rien. Et Baroque, on recense à l'Elysée 17 fauteuils qui sont faits à base de chanvre. Vrai ou faux?
Allez, je vais dire faux parce que ça doit être genre 20 fauteuils. Vous êtes tellement...
Non, c'était juste un gros piège, c'est faux. Non, vous avez raison.
D'accord.
Bien joué, vous avez su déjouer le piège pour une fois d'habitude. Vous tombez droit dedans, c'est bien. Vous progressez. Attention, une question, trois propositions. Vous répondez ensemble. Les stars associent plus ou moins volontairement leur nom au cannabis. Quelle personnalité existe en version weed? 1. Il existe le cannabis Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. 2. Le cannabis Madeleine Albright, parce que tout devient all right. Ou 3. Le cannabis Tom Cruise, scientologiquement approuvé.
Alors, j'en ai aucune idée, je vous laisse.
Je n'ai fumé avec aucun de ces trois-là. Donc, je peux pas vous. À l'époque où je fumais, je ne fume plus.
Bien sûr.
Oui. Je ne sais pas, on va dire la première, je sais pas.
La réponse 1, Eva, Meghan Markle.
Non, j'aurais dit. Ouais, si, si, oui, Meghan Markle aussi.
Non, mais répondez autre chose.
Eh ben, All White.
Eh bien voilà, comme ça, ce n'était pas la bonne réponse. Voilà. Et comme ça, c'est Gérard qui remporte le point.
Oui.
Le cannabis Meghan Markle, il est cultivé par son neveu qui n'a pas été invité au mariage de Meghan avec le prince Harry. La plantation se trouve dans l'Oregon où le cannabis est légal depuis 2015. D'ailleurs, on a appris samedi dernier qu'il a été arrêté par la police car il se promenait la nuit seulement vêtu d'une serviette de bain en hurlant. Voilà, ça, c'est le neveu de Meghan Markle. Sacrée famille. Et Baroque, on peut trouver du cannabis chez Lidl, vrai ou faux?
Non, c'est faux.
C'est faux?
Ah, mais ça dépend.
Ben non, vous avez répondu, c'est faux.
Ouais,
c'est vrai, mais en Suisse.
Mais en Suisse, ça, là, j'en étais sûr.
Il y en a point comme nous. 15 euros le paquet de 1,5 g, c'est un prix Lidl. En Suisse, c'est autorisé pour les plus de 18 ans, pour les produits contenant moins de 1% de THC. C'est du circuit court, car il pousse en Suisse.
On est mal, on est mal.
On est mal, comme disait Tim Sip. Gérard Darmon, c'est la question qui va vous départager. En même temps,
Départager
que...
de rien
oui,
du tout.
Vous êtes déjà en tête. À 2 km de l'aéroport de Roissy, la commune de Chenevrières-les-Louvres a une particularité. Sur son blason, on trouve du cannabis. Vrai ou faux?
Pour être allé chercher cette question, je vais dire au pif, je vais dire que c'est vrai.
Mais oui, mais c'est pas au pif, c'est un processus mental. Il procède par élimination, il a raison. Du cannabis doré même, on appelle les habitants de Chenevrières-les-Louvres les Canabriens.
Les
Canabriens.
Les défenseurs de l'Île-de-France.
Ça, c'est un petit surnom, on les embrasse si on nous écoute à Chenevrières. Et oui, on cultivait du chanvre là-bas avant. Bravo, c'est Gérard Darmon, je pense, il n'y a même pas besoin de demander à la régie, qui remporte le quiz.
Europe 1.
Confinement jour 34. Ah non,
je suis trompée. 44.
Pour la 44e fois, Françoise Dolto s'apprête à se retourner dans sa tombe, puisqu'Eva Rock, nouvelle papesse de la psychologie enfantine, va nous expliquer, comme chaque après-midi, comment avoir la paix en mettant les gosses devant la télé. Alors attention, rassurez-vous Françoise, pas devant n'importe quoi, car dans les programmes jeunesse, il y a à prendre et à laisser. Il convient également de toujours vérifier, même dans les dessins animés les plus anodins, comme Winnie l'ourson, que les doublages ont fait l'objet d'un travail sérieux, ce qui, à l'évidence, n'est pas toujours le cas.
Je me faisais une réflexion. Tous mes amis ont une queue, mais moi non.
Moi non plus, je n'ai pas de queue. Oh, ça veut dire que je ne suis pas ton ami.
Oh non, Winnie. Tous mes amis, excepté toi, ont une queue. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue.
C'est pas possible.
Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétille. J'en
sais quoi.
Si fière que j'aurais, je la laisserais tomber. Je la balancerais, elle poivrerait vers le soleil.
Non, mais c'est pas possible.
Elle pointerait vers le soleil. Toujours bien vérifier les dessins animés qu'on montre à nos enfants.
Ah oui,
c'est notre rôle en tant que parents. Mais rassurez-vous, Eva est là pour ça. Ses conseils écrans pour vos enfants et vos ados arrivent juste après. Jean-Patrick Capdevielle, Canté dans le désert sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Un enfant qui vous dit « je t'aime », c'est merveilleux. Mais un enfant avec lequel vous êtes confiné qui vous crie « je t'aime » 20 fois par jour juste pour tester vos limites, c'est ennuyeux. Contre cette conséquence collatérale du Covid-19 que constitue la présence permanente des enfants dans nos pattes, Eva Rock nous propose chaque jour une solution drastique mais diablement efficace, les placer dès leur plus jeune âge devant un écran. C'est abrutissant peut-être, mais au moins ça vous laisse un peu de temps pour télétravailler, n'est-ce pas Eva?
Oui, mais pas les plus petits, hein, pas les tout petits quand même.
Et surtout pas Winnie l'ourson, on l'a entendu.
Et surtout pas Winnie l'ourson, de toute façon même voilà, Winnie l'ourson on oublie. Je vous propose de commencer avec un film d'animation pour les enfants à partir de 7 ans, si j'en crois la signalétique de Netflix. La plateforme qui développe aussi des longs métrages d'animation de très grande qualité depuis plusieurs mois. Vous avez donc rendez-vous avec la famille Willoughby, qui est composée des parents et de leurs 4 enfants. Il y a Tim, l'aîné, Jane, sa sœur, et puis les frères jumeaux. Alors comme les parents ne savent pas trop comment les appeler, ils les ont appelés Barnaby et Barnaby, voilà, c'est plus facile. Ils ont un petit air de ressemblance avec les mignons de Moi, Moche et Méchant. Alors toute ressemblance avec la situation actuelle serait bien évidemment fortuite. Écoutez bien, chez les Willoughby, les enfants ont décidé de se débarrasser des parents.
Nos parents sont nuls. Imagine un peu comme notre famille pourrait être géniale sans eux.
Mais comment veux-tu qu'on se débarrasse de 2 adultes fourbes?
Facile.
Voilà pourquoi les enfants Willoughby ont décidé...
Nous concocterons une expédition dangereuse.
D'envoyer leurs parents faire un voyage... mortel.
Sinistre. Audacieux.
Et alors, derrière cet humour et le côté un peu burlesque des situations, il y a notamment une super nounou, un monsieur aux allures de Père Noël qui est le patron d'une fabrique de bonbons.
Nounou,
voilà, exactement.
Une super nounou, super nounou.
Et
Michel Jonas aujourd'hui.
Le narrateur qui est un chat, voilà, tout ça, ça donne quelque chose de tout à fait burlesque, mais le film aborde quand même la notion de famille et d'appartenance à une famille, mais aussi le thème de la maltraitance des enfants. Il n'y a pas d'émotion excessive pour autant, parce que le registre, c'est vraiment celui de la comédie. Le film est d'ailleurs adapté du roman de Lois Lowey, et qui est intitulé, écoutez bien, Les Willoughby, abominablement écrit et ignominieusement illustré par l'auteur. Voilà. Sur la forme, le dessin est en 2D et en 3D, avec des détails qui sont bluffants de réalisme. Je suis assez fan d'ailleurs de la qualité de l'animation de ce film. Alors, je sais bien que je ne suis plus vraiment en âge de regarder des dessins animés, mais je me suis absolument régalée. La famille Willoughby, c'est sur Netflix.
Vous connaissez mon côté un peu radin,
radineux. Un peu pingre, oui, on peut le dire.
Un peu pingre, ouais. On peut le dire. On m'appelle la pince du Léman. Vous avez bien un programme gratuit dans
bien
votre
sûr,
besace.
Tous les jours. C'est sur France TV cette fois-ci, et c'est un dessin animé qui est très malin, qui est baptisé Rocky Quaternaire. C'est le nom du personnage principal.
Alors là, j'ai compris le jeu de mots.
Voilà, on est encore dans une famille, on est dans le quotidien d'une autre famille qui s'appelle les Tika. Il y a un papa, une maman, deux enfants, une fille et un garçon, et l'arrivée d'un autre petit garçon, donc Rocky. C'est un enfant cro-magnon, une sorte d'hibernatus. Il est resté congelé 35 000 ans avant d'être découvert, et donc il a intégré cette famille, et il va devoir apprendre à vivre au 21e siècle. Alors, exemple avec la correspondante anglaise qui débarque et qui affirme apprendre le solfège.
C'est quoi le solfège?
C'est l'étude des notes de musique.
Non, t'en m'amoutes les deux! La musique, ça s'étudie pas, ça se joue! Je vais te montrer, Maggie, comment on fait! Allez, tous avec moi!
Alors, la confrontation entre Rocky et le reste de la famille, en fait, est qu'un prétexte pour aborder notamment la notion de différence, un thème envisagé toujours avec humour. Plusieurs épisodes sont disponibles gratuitement sur France.tv ou sur l'application gratuite Oku. Ça s'écrit OK2O. Et c'est pour des enfants à partir de 6 ans, et ça s'appelle Rocky Quaternaire. Voilà.
Et pour des parents qui sont radins comme moi.
Exactement.
Merci beaucoup, Eva, pour vos conseils du jour.
Europe 1.
La meilleure émission radio depuis le tribunal des flagrants délires, Monique Noël. Un duo exceptionnel de drôlerie et d'intelligence, surtout la fille, Geneviève Roch. Des chroniqueurs brillantissimes, surtout celui qui parle d'économie, Nadine de Tarlet. Oui, une première page se tourne dans cette émission, unanimement saluée par la critique qu'est l'équipe sauvage. Mais restez avec nous, une deuxième manche se profile au programme. Deux nouveaux journalistes bien décidés à vous épater. Et bien sûr, toujours, notre humour signature, un humour exigeant, de qualité, à l'image des meilleurs gags d'Eva Roch avec son petit neveu.
Il a eu un sandwich au caca.
On sait rire chez les Roch.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Il paraît que le confinement rend les gens plus solidaires, plus altruistes. Pas eux. Même confinés, les meilleurs journalistes d'Europe 1 n'ont pas renoncé à leur envie d'en découdre. Chaque après-midi, ils s'affrontent au service de votre culture G et de votre quotidien. Vous les notez via Twitter. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre. L'un nous racontera les coulisses d'un film culte. L'autre nous expliquera comment transformer notre téléphone en webcam pour être le roi des visio-apéros. Évidemment, je me foutrai de la gueule de tout ce joli monde. Chacun en prendra pour son grade grâce à ma fameuse méthode qui consiste à détourner des sons, les sortir de leur contexte pour mieux ridiculiser les gens. Une méthode assez flippante quand on y réfléchit.
Ah bah oui.
Avec un peu de malice. Ah oui, mais j'y réfléchis pour la première fois.
Mais
c'est vrai que c'est flippant parce qu'avec un peu de malice, on peut faire n'importe quoi à un son. Hier, par exemple, en trifouillant mon Scoopy, la machine qui me permet d'être en duplex avec vous de mon salon, et alors que je parlais à la régie, je me suis dit, oulala, Matounet, ce que tu dis là pourrait faire l'objet d'un montage odieux où, au lieu de procéder à un réglage technique, on pourrait facilement donner l'impression que tu t'apprêtes à faire l'amour à une femme, mais que tu es bien tatillon. Heureusement, personne n'osera jamais se livrer à une telle manipulation. Hein. Non, non. Oui, on voit. Voilà. Ah, voilà. Là, c'est bien. Oui. Ah, d'accord, pas trop. Oui, juste au milieu, d'accord. Attends, voilà. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est encore mieux. Là, c'est parfait. Voilà, c'est bon. On peut y aller.
Ah, c'est génial.
Heureusement que j'ai interdit à tout le monde de procéder à un tel montage.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Étoffer sa culture G tout en s'enivrant de bonne humeur, vous écoutez l'équipe sauvage des meilleurs journalistes d'Europe 1. Une sauvagerie feutrée en ce moment puisque nos duels journalistiques ont lieu par canapé interposé. Mais le confinement n'entame pas notre combativité et va présenter à nos auditeurs les deux prochains concurrents qui vont se disputer le titre de chroniqueur du jour. Le premier est notre expert innovation et nouvelles technologies. Tablettes, smartphones, accessoires Bluetooth. Il est l'un des plus grands spécialistes français.
Surtout ce qu'on a l'habitude de tripoter au quotidien.
Bonjour Anicem Bidart.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous avez encore tripoté pour nous, mon cochon, aujourd'hui?
J'ai tripoté des réglages pour vous proposer une astuce pour tous ceux qui enchaînent des réunions en visio, qui font des apéros, des anniversaires par caméra interposée. Je vais vous montrer comment on peut utiliser son téléphone pour avoir à la fois une meilleure image et être beaucoup plus libre dans ses mouvements.
Ça, c'est-à-dire qu'on a son ordinateur, mais on prend le téléphone comme une webcam.
Pas, il le fera au moment de sa chronique. Vous essayez de tout dévoiler d'un coup.
Mais
là.
C'est moi, mais Eva, c'est moi qui prends cette émission, c'est moi qui décide si j'ai envie de savoir tout de suite de quoi il ressort. Bon, tant pis. D'accord, Eva, si vous voulez, je me range à votre opinion. Votre rival du jour, Anicet, nous attend au duplex de sa discothèque personnelle. Véritable caverne d'Ali Baba où il y aurait, dit la légende, plus de disques qu'au Virgin Megastore des Champs-Élysées dans les années 2000. Parmi ces milliers de vinyles, des classiques, du jazz, de la soul, du rock, des inédits, des collecteurs, des trésors cachés aussi comme ce très rare enregistrement a cappella, Goati chante rock.
C'est hard, sans toi on est maussade, en jogging en glissade.
Et après vous foutez de ma gueule quand chante Michel Jonas, Eva.
Ah non, j'ai rien dit là. C'était pour mon anniversaire, je
c'est Fred Goati. Bonjour Fred.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous. J'avais pourtant payé très cher des gens pour effacer les documents, mais visiblement...
C'était pas assez cher à mon avis.
Toujours une petite copie. Vous êtes le directeur de Jazz Magazine, Fred Goati. Aujourd'hui, c'est d'un film dont vous nous parlez, un film culte qui fête ses 40 ans.
Oui, il y a 40 ans exactement, effectivement, je découvrais avec émerveillement les Blues Brothers. Et c'était la première fois que je voyais sur grand écran des artistes aussi géniaux qu'Aretha Franklin, Ray Charles et James Brown. Alors je viens de revoir ce film sur Netflix, il n'a pas pris une ruine, c'est toujours aussi jubilatoire. Et je vais essayer de vous raconter deux ou trois choses que vous ne saviez peut-être pas.
Allez. Alors, découvrir ou redécouvrir les Blues Brothers avec le meilleur des guides ou tripoter son smartphone pour le transformer en webcam avec ce coquinou d'Anicem Bidart. Quel sujet aura vos faveurs? La réponse tombera juste avant 18h. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe dans ce 44e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail de ma fidèle complice Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Bonjour les sauvages. Alors moi j'ai développé lors du confinement une nouvelle pathologie, l'observance du conjoint. Et en fait là j'en suis à un point, c'est je fais carrément de la misophonie. Et j'ai l'impression que quand il mange, il bouffe des gravillons. Je serais capable des pires violences, hein. Je prends énormément sur moi. Help.
On va venir vous aider. C'était Anne-Marie qui nous a envoyé ce petit message. On imagine que son mari était à proximité. Et on a eu un autre message, Mathieu, c'est Caroline. Oui. Caroline, elle est très très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où elle fait des parodies de chansons françaises. Elle nous raconte tout.
Bonjour Eva, bonjour Mathieu. Vous pouvez retrouver mes parodies en chanson sur mon compte Instagram Miss Bêtise, Miss M-I-2-S, _ Bêtise au pluriel.
J'ai écouté Édouard Philippe, c'est pas vraiment la fête du slip. Je suis pas sûre d'être convaincue, on va la voir dans le curieusement avec tout ça, je vais sortir de là avec la ménopause. Édouard, dis-nous des mots d'amour, une bonne nouvelle par jour, là c'est la sinistrose.
C'est vraiment bien, hein.
Mais c'est vraiment
bien
pour vous en plus, on va
tout
sortir de là avec la ménopause.
Oui, ça c'est vrai, oui, je vous confirme.
Exactement. Dédicace, là.
On le remercie Caroline et puis vous pourrez Miss Bêtise sur Instagram, allez-y, il y a plusieurs parodies de chansons. Et alors, elle n'est pas chanteuse et c'est pas son métier, hein. Donc vraiment encore bravo pour toutes ces performances.
Il y en a plein, plein des reprises.
Exactement.
Et comment ça se passe, vous, les amis? Fred, vous pouvez nous le dire, vous n'en pouvez plus d'écouter des trésors du jazz. Je suis sûr qu'en douce, le soir, vous vous faites un petit plaisir régressif. Imaginez le directeur de Jazz Magazine danser sur la queue leu-leu, un petit baisu de temps en temps, je suis sûr que ça vous change dès la fuite Gérald.
Si je vous fais la liste des plaisirs régressifs, elle risque d'être longue, mais vous savez très bien que j'ai pas que des disques de jazz à la maison, heureusement.
C'est vrai. Et vous Anicem Bidart, vous parlez toujours en langage codé pour réussir à pécho votre femme sans éveiller les soupçons des enfants, souvenez-vous.
Préviens-moi dans une heure de vider le lave-linge.
Vous avez toujours cette manière de communiquer.
Comment ça, le pire c'est que c'est vrai?
C'est vrai. Bah oui, c'est compliqué avec les enfants.
enfants qui courent partout. Maintenant, on est obligé de trouver des astuces pour bloquer les portes qu'on n'avait pas besoin de faire avant.
Pour bloquer les portes, vous mettez quoi? Des livres d'ailleurs? Vous mettez quoi? Une chaise comme dans les films?
Non, des chaises et un lit qui bloquent.
Mais non!
C'est bon ça! C'est bon, les techniques.
Regarde mon coloriage! Regarde mon nouveau dessin!
Ah là là, je vous imagine tellement Anissé. Confiné, mais toujours aussi taré, la bande de l'équipe est sauvage vous accompagne tout l'après-midi.
Europe 1.
On a tous au moins une fois dans sa vie swingé sur ça. Pire, on a tous, on peut l'avouer, chanté sur ça. Sous sa douche, ça donnait... We're glad to you, very bimbo, and run tonight, you know. Bref, une technique vocale propre aux Français.
Qui s'appelle yaourt.
Ah oui.
Qui s'appelle yaourt, effectivement. Et bah, les Blues Brothers, le film à 40 ans, Fred Goetti nous en raconte l'histoire, juste après Us Three, Cantaloupe sur Europe.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe sauvage, deux heures pour booster votre culture G, muscler vos zygomatiques et vous nettoyer les oreilles. Pour certains dans l'équipe, il y a du boulot. Une boîte entière de coton-tige n'y suffirait pas, puisqu'hier encore, quand je faisais écouter ça dans la rédac, Anne Le Gall s'exclamait
Herbert Léonard.
Oh non.
Heureusement, non. Aujourd'hui, pour fêter les 40 ans du film Les Blues Brothers, on est en ligne avec l'encyclopédie humaine du blues, Fred Goetti. Les Blues Brothers ont donc 40 ans.
Tiens, bah justement, Mathieu, Eva, écoutez ce bluesman qui chante I'm a king bee. En français, je suis le roi des abeilles.
Well, I'm a king bee, baby. I can buzz all night long. Well, I can buzz better, baby. When your man is.
Woo!
When your man is.
Il est complètement fou, il est complètement allumé ce bluesman. Est-ce que ça serait pas John Belushi par hasard?
Bingo! Alors évidemment, avec c'est John Belushi avec bien Donald Crod à l'harmonica dans le Saturday Night Live, la cultissime émission de télé américaine qui a révélé, comme vous le savez, un nombre incalculable de comiques. Car c'est dans
Don
le
Popec.
Saturday Night Live.
Non, Mathieu, qu'il est bête.
Que Belushi et Aykroyd ont commencé à chanter du blues et du rhythm and blues. Alors d'abord pour chauffer la salle. En fait, avant le direct, puis dans l'émission elle-même. Et quand ils faisaient I'm a King Bee, dont on vient d'écouter un extrait, bah ils étaient tout simplement déguisés en abeilles. C'est hilarant d'ailleurs. Hein. Bon. Puis ils ont fini quand même par adopter un look un petit peu plus sérieux, inspiré par les vrais bluesmen. Costume noir, chapeau noir et bien sûr lunettes noires. Et voilà comment les Blues Brothers sont nés. Et de fil en aiguille, en surfant sur leur immense popularité télévisuelle, ils vont donner d'abord des concerts, puis enregistrer un disque live et enfin écrire un film qui sera mis en scène par un autre grand amoureux des musiques noires, John Landis.
Ouais.
Et oui, qui venait de tourner American College avec John Belushi d'ailleurs, qui était un énorme succès aux États-Unis. Alors on connaît tous l'histoire rocambolesque de Jake qui sort de prison et de son frère Elwood. Ils ont 11 jours pour trouver 5 000 $ et sauver l'église de la nonne, Kathleen Freeman, qui les a élevés. Et c'est pour ça qu'Elwood, justement, répète tout le temps...
Nous sommes en mission pour le Seigneur.
Oui, et, oui.
Et ils partent sur la route, donc, et ils reforment leur groupe. Et comme ils roulent en blues mobile, c'est en fait une vieille voiture de police toute pourrie, bah, il y a confusion parfois.
Vous êtes des policiers?
Non, madame, des musiciens.
Oui, c'est ça.
Et celle qui dit vous êtes des policiers, on dirait Elise Moon dans
mais
les
oui.
petites annonces.
Il y a un petit accent du sud en plus. Ouais.
Accent du sud. Alors, les Blues Brothers, c'est très drôle, c'est une comédie, mais ce qui fait tout l'intérêt du film, c'est évidemment les scènes musicales.
Bien sûr, même si, attention, les nombreuses poursuites de voitures sont aussi très rythmées en fait. Tout est musical dans les Blues Brothers, moi je trouve.
Ben,
tout
c'est
le
pas
monde
Fast
danse.
And Furious quand même.
Non, mais
tout le monde danse, ouais. je dirais presque même les voitures. Enfin, on reste que 40 ans après, hein. Personne n'a oublié la scène, par exemple, où Jake et Elwood, bah, ils vont chercher leur pote Matt, le guitariste, dans le Soul Food Café. Et au début, la femme de Matt, d'ailleurs, une certaine Aretha Franklin, bah, elle regarde ces deux zozos d'un mauvais œil.
You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think.
On connaît par cœur cette scène géniale, mais voit bien qu'Aretha Franklin a du mal à chanter en playback.
Oui, ça saute aux yeux. En fait, elle détestait ça. John Landis, Le metteur en scène savait qu'Aretha Franklin ne chantait jamais une chanson de la même manière, mais pour des raisons techniques, il a dû insister pour qu'elle tourne cette scène en chantant en playback, mais en fait, elle n'a fait aucun effort, et ça se voit à l'écran, et moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ce côté à la fois spontané et totalement jubilatoire, parce que les Blues Brothers, bon, ça, c'est une comédie, je vous apprends rien, mais aussi, et c'est surtout, et ça, John Landis le revendique, une comédie musicale d'un genre nouveau qui a initié surtout des millions de gens à la musique noire et remis en selle des artistes comme James Brown Lee Hooker et même Aretha. Parce que n'oubliez pas qu'ils étaient au creux de la vague au début des années 80 parce que la soul music venait d'être submergée par le disco. Voilà, donc ça c'est le fameux morceau. Alors petit épilogue, un an plus tard, dans le film suivant de John Landis, Le Loup-garou de Londres, un film d'horreur, il y avait une scène de transformation terrifiante qui allait marquer un jeune chanteur nommé Michael Jackson, qui embauchera illico John Landis et réalise le clip légendaire de Thriller. Et oui, la transformation du loup-garou. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et une autre chronique, exactement.
Une autre chronique, il a déjà un coup d'avance, alors que certains, on ne citera pas qui, ont un coup de retard. Merci Fred Boetti, serez-vous notre grand gagnant du jour. Votre sort est désormais entre les mains des auditeurs qui vont voter sur Twitter. Comme disaient les Blues Brothers, everybody needs somebody to vote.
Europe 1.
À suivre, après s'être farci plus de 487 000 heures de programmes télé, films, séries, documentaires, un jour, aux alentours de 66-67 ans, lorsqu'on lui demandera « qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?», elle nous répondra
« j'en ai rien à foutre !»
Exactement.
En attendant, Eva continue son petit bonhomme de chemin. Comme chaque après-midi, elle va nous guider dans la jungle des programmes. Ses conseils dans un instant.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h, 18h.
Quand je lui ai proposé de tenir la chronique média dans cette émission, je lui ai dit qu'il y avait deux choses primordiales à mes yeux quand on donnait des conseils télé, la concision et la clarté. En 162 émissions, Eva Rock ne m'a jamais déçu.
Alors une fois encore, évidemment, Shrek défonce les codes des codes de... Shrek défonce les codes des codes, des codes, codes, des comptes de... Ah, Julien, merde, c'est moi qui suis du français, attendez.
Eva, si tant est que vous soyez sobre cet après-midi, auriez-vous la gentillesse de donner le programme télé, s'il vous plaît.
Je vais essayer avec une spéciale justice ce matin, Mathieu, avec deux programmes très différents, mais à regarder absolument. D'abord, une série italienne qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Il Processo, le procès, 8 épisodes. Il Processo, voilà, 8 épisodes construits.
Et ne pas confondre avec Il Prosecco.
Ah ben bah non, ça marche pas.
Quand on fait des spritz.
Ouais. Et ils en boivent beaucoup quand même dans la série. Ah. 8 épisodes construits comme un puzzle et c'est absolument génial. Je vous raconte l'histoire en deux mots. Angelica, 17 ans, est assassinée. C'est une jeune procureure qui est fille d'un magistrat qui enquête sur ce meurtre dont les principaux protagonistes en fait appartiennent à une famille qui est très riche et influente, les Monaco. Et dès le premier épisode, vous allez comprendre que à la fois la victime, les Monaco avec leur avocat mais aussi la procureure sont tous intimement liés. Et après ce premier épisode qui met en place l'intrigue, les 7 autres vont se dérouler principalement dans l'enceinte du tribunal, donc pendant le procès, avec un rebondissement toutes les 10 minutes. Mais alors pas du rebondissement improbable, non, tout est réaliste et fascinant. Impossible de décrocher de ce procès où les magouilles et autres trahisons sont possibles. Et puis un atout supplémentaire, ben ça fait du bien de voir une série italienne. D'abord, l'accent est chantant, je vous la recommande vraiment en version originale. Les décors sont absolument sublimes. Et puis on découvre aussi de nouveaux comédiens. Ça s'appelle Il Processo et c'est sur Netflix.
Et on quitte l'Italie, Eva, pour votre deuxième choix.
Oui, alors on part en Belgique découvrir une juge, Anne Gruvets. Elle est dans un documentaire qui date de 2017 qui est intitulé Ni juge, ni soumise, qui est réalisé par l'équipe de l'émission mythique Striptease. Donc je répète, il s'agit bien d'un documentaire. Accrochez-vous parce que pendant 1h40, vous allez passer des larmes de rire à quelques moments de sidération. Alors Anne Gruvets, elle a la cinquantaine. Son animal de compagnie, c'est un rat. Elle se déplace en deux chevaux. Elle mange des pâtisseries. Elle offre des bonbons aux avocats, aux collaborateurs et aux justiciables qu'elle reçoit dans son bureau.
Elle est belge.
Elle n'a pas sa langue dans sa poche, surtout. Et parmi ses dossiers, il y a le meurtre de deux prostituées commis il y a 20 ans qui n'arrivent pas à avancer. Et ça commence d'ailleurs avec une mauvaise nouvelle au sujet d'un des suspects.
Le fameux Dirks.
Il est mort.
Il est mort il y a 15 jours, madame.
Oh mon Dieu, le salaud. Il l'a fait exprès. Ah non.
Je ne vous le fais pas dire.
Oh, probablement qu'il l'a fait exprès. Oh, l'ignoble type. Il est mort. Frédéric.
Oui, tout à fait.
Et donc, attends, c'est un documentaire, il n'y a pas Benoît Poulvord qui surgit à un moment
non,
et François Damien.
Non, c'est un documentaire. Tout est surréaliste avec cette juge. Écoutez cet échange avec un homme qui refuse de donner son ADN. Elle lui explique qu'il va quand même devoir le faire et elle a sa méthode pour ça.
Je me permets quand même de vous dire, monsieur Mohammadi.
Oui, madame la présidente.
Que je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et que je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration,
c'est quand même une femme, madame la présidente.
Je le fais immédiatement.
Mais non, je ne peux pas.
Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Ça va être très simple.
Mais c'est incroyable.
Ah non, mais ça me fait hurler de rire. Non, mais alors le problème, c'est pas que c'est un problème, c'est à la fois hilarant parce que grâce au caractère de cette juge qui n'hésite pas, notamment, il y a une scène, elle demande des détails des pratiques à une prostituée qui est spécialiste du bondage. Mais je vous jure, mais c'est hilarant. Mais c'est aussi sordide parce qu'il y a certaines séquences, franchement, qui nous plongent dans une forme de misère sociale et là on ne rit plus du tout. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, il y a quand même certaines images qui sont un peu difficiles, notamment l'extraction d'un corps. Bon, voilà. L'exhumation d'un corps, pardon. Dépêchez-vous parce que le documentaire est disponible gratuitement jusqu'au 1er mai. C'est sur France.tv, ni juge ni soumise. Allez voir ça, c'est vraiment du bonheur.
Oui, mais vous avez commis un petit lapsus. Vous avez parlé d'extraction de corps.
Oui, et d'extraction,
ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on tapera sur Internet. Peut-être que.
Non, je vous ai dit exhumation.
De vos perversions.
Exhumation.
On finit, Eva, avec le fameux mix.
Oui, un mix.
Préparé avec Sébastien Bordonnet.
Exactement. Bordonnet. Il est spécial aujourd'hui. Il est constitué de vidéos du site musicforheroes.live. Des artistes, qui récitent un poème, qui chantent, qui jouent de la musique. Tout ça pour remercier le personnel soignant. Donc, Carole Poupeau, Mathias Malzieu, Aurélie Saada de Brigitte, Michael Jones et Joey Starr qui a choisi une chanson de Christophe.
Joey Starr, pour Music for My Hero, une chanson de Christophe, Océan d'amour. Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent du mort.
Have you seen the old man in a broken down market? Stuffing the papers in his worn out shoes.
Matin, j'ai entendu qu'on fermait la paix de Rio. Moi, je ne l'ai jamais vu comme le chantait Nino.
Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser tous les jours.
Et voilà, Yarol Poupeau pour terminer ce mix spécial musique.
Mix très réussi. De plus en plus émouvant, Joey Starr. Hein.
Ah, mais moi j'adore Joey Starr. Hein. Bon, voilà. Je lui ai déjà dit d'ailleurs. Mais ça, mais...
Une bouteille à la mer.
Il le sait. J'ai honte, mais. Ouais,
il a votre 06.
Ouais. Je crois pas. Non.
On va lui donner. On va lui transférer. Merci beaucoup, Eva Rock et Sébastien Bordonnave, notamment pour le mix.
Europe 1.
On a souvent critiqué son goût pour les gadgets, notamment les applis gadgets, comme dernièrement celle permettant, grâce à une analyse morphologique et un algorithme, de mieux connaître à l'avance les caractéristiques physiques d'une personne rencontrée sur Tinder.
Je peux savoir à l'avance si la queue est longue ou pas.
Ah, génial.
Ouais. Heureusement, Anissa Mbida, notre inspecteur gadget, ne choisit pas que des sujets pour Eva. Aujourd'hui, je vous explique comment transformer votre portable en webcam haute résolution pour être le roi des apéros FaceTime. C'est bon tuyau, juste après Thomas Dutronc. Plus je t'embrasse sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue avec un de nos plus impressionnants spécimens. Beauté plastique, musculature émoustillante, intelligence redoutable. Anissa Mbida, notre expert nouvelle technologie, a toutes les qualités et tous les talents. Notamment, c'est lui qui aurait dû avoir le rôle finalement décroché par Rami Malek dans le biopic de Freddie Mercury. Pourquoi a-t-il été écarté au dernier moment? Vous l'entendez, à cause de sa couleur de peau, évidemment. Oh. C'est dégueulasse. Anissa Mbida, cet après-midi, vous nous proposez un sujet utile. Comment transformer notre smartphone en webcam lorsqu'on fait un apéro virtuel? Et Dieu sait qu'il s'enchaîne en ce moment pour certaines.
Alors, la première question qu'on m'a posée, mais c'est pourquoi on voudrait utiliser son téléphone portable comme webcam? On pourrait tout simplement faire sa visioconférence directement sur le téléphone, ce que font beaucoup de gens. Sauf que c'est pas pratique, hein. Vous l'avez certainement expérimenté de faire ça sur son téléphone. Si on est plusieurs à vouloir être sur la vidéo, par exemple, eh bien, il faut avoir un bras assez long, il faut tenir le téléphone assez loin de soi pour pouvoir avoir tout le monde, c'est compliqué à faire. Et du coup, si on met le téléphone un peu loin, l'image est toute petite, on voit plus rien. En plus, on n'est pas libre de ses mouvements. S'il faut tenir le téléphone tout le temps, il faut s'arranger parfois pour le caler au milieu des bouteilles et du saucisson. Donc non, c'est pas pratique d'utiliser son téléphone quand on fait une visioconférence.
Vous m'espionnez que vous connaissez ma vie par cœur.
Non, ce qui est beaucoup mieux, c'est d'utiliser son ordinateur.
Oui, l'ordinateur, c'est facile.
Bah oui, parce que l'écran est beaucoup plus grand, on voit beaucoup mieux. Et puis en général, les applications de visio sont beaucoup plus complètes. Hein. On peut changer le fond, supprimer les cours, les bruits des enfants qui crient, etc. Le seul problème, tous les ordinateurs n'ont pas de webcam. Il faut en avoir une sur son ordi. Et si on veut en acheter une, bah en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein. La plupart des bonnes webcams sont en rupture. C'est compliqué d'en acheter. Et quand on en a une, hein, sur un ordinateur portable, par exemple, bah, la qualité n'est pas toujours terrible. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez fait des visios, vous avez une drôle de tête. Si on n'a pas de la lumière d'un studio de cinéma, bah, on a un rendu qui est un peu vraiment étrange. Alors que sur votre téléphone, la qualité de la caméra, elle sera à des années-lumière de ce qu'on trouve en général aujourd'hui sur les webcams. Donc le mieux, bah, c'est d'utiliser d'un côté son téléphone comme une caméra et de l'autre son ordinateur comme grand écran pour voir tout le monde.
Comment ça se marche techniquement? Moi, je ne comprends pas comment on le fait.
Eh ben, alors, il faut d'abord installer un logiciel sur son téléphone. Alors, il y a plusieurs logiciels qui le font, hein, ils sont gratuits. Moi, je vous recommande par exemple DroidCam si vous avez un téléphone Android, EpochCam si vous avez un iPhone, ou un autre qui s'appelle NewTek NDI, qui fonctionne sur les deux. Ils vont commencer par vous demander d'installer ce petit logiciel compagnon sur l'ordinateur. Et ensuite, on va dans les paramètres de son logiciel de visioconférence préféré, hein, Zoom, Skype, Teams, Meet, celui que vous avez. Et quand on choisit dans les paramètres, on voit son téléphone qui va apparaître comme caméra. Donc c'est assez simple. Hein. Il n'y a même pas besoin de brancher son téléphone à l'ordinateur. Hein, ça peut fonctionner directement.
C'est grâce au Wi-Fi en fait. Wi-Fi. Ouais, c'est ça.
Ça peut fonctionner directement Wi-Fi. Alors si le réseau n'est pas très bon, hein, il peut y avoir des décalages. Hein, donc parfois, c'est préférable de le brancher. Mais ça fonctionne même en Wi-Fi. Et ça a beaucoup d'avantages, hein, parce qu'on peut régler la qualité de l'image. Hein, sur votre téléphone, vous avez des réglages pour régler la luminosité, la netteté, même améliorer les visages pour qu'ils soient un peu plus clairs, un peu mieux placés. On peut positionner la caméra où on veut. On est beaucoup plus libre de ses mouvements. Hein. C'est l'occasion de ressortir sa vieille perche à selfie, vous savez. Hein,
Ou
le support de voiture qui ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. Bah comme ça, pof, placer son téléphone à n'importe quel endroit. Alors, si on a du matériel chez soi, on peut aussi utiliser un appareil photo. Vous savez, les appareils photo.
On peut le connecter. On peut le connecter en Wi-Fi.
Parfois, on a un pied d'appareil photo.
Un pied d'appareil photo.
Alors, tout le monde n'a pas un appareil photo qui a le Wi-Fi, mais on peut le brancher avec un câble directement à son ordinateur.
J'y avais pas pensé.
Évidemment, le rendu sera encore bien meilleur hein, si on utilise un
Il faut encore des logiciels, là, je pense.
Quelque chose qui est très proche.
Une fois qu'on a branché son appareil photo sur l'ordi.
Oui. Alors, l'avantage, c'est que pas mal de caméras, les caméras Sony, les caméras Canon, elles sont livrées avec ces logiciels. C'est des logiciels qui s'appellent OBS Cam ou Camera Live ou Cam Twist. Et c'est des logiciels qui font la même chose. C'est-à-dire qu'ils connectent votre caméra à votre appareil photo à votre ordinateur portable et qui le font apparaître comme caméra pour un logiciel de visioconférence. Alors, ça demande un poil plus d'installation parce que il faut relier le câble à l'ordinateur, il faut faire attention à la batterie, hein, parce que si on reste une heure
pendant un apéro, il faut que
le téléphone, enfin, faut que l'appareil photo tienne le coup. Mais c'est ce genre de dispositif qui est utilisé aujourd'hui par les artistes, les professionnels, hein, quand ils font des choses chez eux, ou les youtubeurs, ils ont une très belle image. Et ben, c'est parce qu'ils utilisent un appareil photo de très très bonne qualité et pas une vieille webcam toute pourrie comme on a aujourd'hui sur nos ordinateurs portables.
Sujet intéressant, mais j'espère qu'il ne tombera pas dans les mauvaises oreilles, à savoir celle de notre direction qui pourrait nous expliquer qu'on peut peut-être se filmer pendant qu'on fait l'émission chez nous avec un système performant. Donc merci Anicet Mida de garder ça pour vous.
Et on peut couper ça en montage.
La semaine prochaine, Anicet, vous nous parlez d'une appli coquine qui, par un jeu de miroir astucieux, amplifie l'excitation de votre partenaire lorsque vous faites l'amour.
Comme ça, on a 50 cm d'un côté, 50 cm de l'autre.
Ingénieux. C'est une règle d'or de l'équipe sauvage, se moquer de tout le monde, sauf de l'invité. Bon, après, aucune règle n'interdit en revanche que l'invité se foute de la gueule d'Eva. À vrai dire,
c'était
encouragé, beaucoup n'osaient pas, hein, mais certains, comme Vincent Delerme, y allaient, bon, timidement, mais ils y allaient quand même, il faut dire que le quiz leur donnait matière. C'était pas mal, ce petit quiz piano.
Ah non, j'étais ridicule.
Mais c'est ça qui était bien.
Merci Vincent.
Le meilleur de notre émission avec Vincent Delerme, mais oui, on était en public à l'époque. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous divertir, bien sûr, mais également vous ouvrir chaque après-midi de nouveaux horizons. Telle a toujours été la ligne directrice de l'équipe Sauvage, vous ouvrir de nouveaux horizons et ouvrir de nouveaux horizons à nos invités, les embarquer dans notre univers, même si a priori, il est assez éloigné du leur. Ça marchait pourtant à tous les coups, comme la fois où j'avais présenté Alain Sirou, notre spécialiste ciel et espace, à Vincent Delerme. Vous êtes de la génération E.T. Vincent Delerme. Quand vous étiez gamin, et peut-être toujours aujourd'hui, vous êtes fasciné toujours par l'espace?
Eh ben, pas du tout.
Oui bon, on ne pouvait pas toujours tomber juste, mais on avait passé une belle après-midi quand même avec Vincent Delerme, souvenez-vous Eva. C'était le 18 octobre dernier. Comment cela va-t-il se passer entre nous, Vincent? Aussi bien qu'avec Jeanne Chéral, une de vos amies, passée nous voir il y a quelques semaines. Ça va être difficile tant la tension érotique avait été immédiate et palpable.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Ben, je sais pas, mais c'est... Enfin...
Deux étrangers se rencontrent.
Alors, Vincent Delerme. Non, des beaux souvenirs. En antenne, vous me donnerez le 06 de Jeanne Chéral que je puisse la remercier. Mais cet après-midi, on parle de votre nouvel album Panorama. Ce septième album est entre autres une déclaration d'amour au septième art. On y croise évidemment Agnès Varda, François Truffaut, à qui vous aviez consacré votre mémoire de maîtrise en lettres, dont on entend la voix dans le titre Panorama. Vous êtes nostalgique d'un cinéma d'antan?
Oh non, pas du tout. J'adore Truffaut, mais par contre, je vais pas m'empêcher de l'aimer parce qu'il est plus là ou parce qu'il date d'une époque. Mais non, en plus, cette chanson dans laquelle il intervient, on a utilisé pour le reste beaucoup des voix qui sont justement présentes dans le film que j'ai fait. Et donc ça, c'était hyper... agréable pour moi parce que j'aime bien effectivement les voix de cinéma, utiliser, aller piocher des choses de ce côté-là et du coup là de pouvoir aller piocher dans mon film, c'était chouette comme d'avoir écrit une chanson comme ça. Mais effectivement, la chanson est rythmée par une phrase de Truffaut qui disait que les films sont des trains dans la nuit, qui avait cette idée dans les films qu'il n'y a pas d'embouteillage, qu'il n'y a pas de temps mort et qui sont un peu comme une amélioration de la vie, ce qui est le cas des chansons aussi. Quand on fait des chansons, on essaye de reproduire la vie, mais un peu mieux, exactement.
Le titre du film, c'est Je ne sais pas si c'est tout le monde. Étrange titre de film, poétique. Bon, comment ça vous est venu?
Bah, c'est,
vous êtes réveillé une nuit, vous avez dit c'est ça le titre?
Non, je trouvais que c'était le sujet, c'était de se dire moi je ressens les choses comme ça, mais est-ce que vous ça vous fait le même effet? Donc c'est quelque chose qui c'est pareil, ça c'est aussi un truc qui est la grosse problématique quand t'écris des chansons, parce que tu te dis toujours je vais taper dans une zone assez intime dont on pourrait se dire bon, a priori il y a que moi qui ressens ça, ça n'a pas d'intérêt, et t'espères que les gens en face vont te dire ah mais attends c'est drôle parce que justement moi j'ai ressenti pareil.
Et Varrock,
au départ le film devait être une fiction, c'est ça Vincent Delerme?
Oui, enfin en tout cas j'avais essayé de faire ça sérieusement avec une vraie équipe de cinéma, avec un vrai scénario, et puis ça marchait pas trop parce que justement je voulais obtenir des témoignages justement assez intimes et assez touchants, donc d'avoir tout écrit, ça fonctionnait pas. Donc on a mélangé des choses écrites au fur et à mesure avec des vrais témoignages.
Les attentats de 2015, vous dites qu'ils ont modifié, ils ont changé la donne pour ce film. Vous étiez parti sur une piste, vous êtes interrompu au moment des attentats.
Ils ont changé la donne pour moi parce qu'effectivement on avait commencé à faire ce film et puis là en fait j'ai eu assez envie de remonter très vite sur scène après, comme beaucoup de gens en fait qui font de la scène après les attentats. Et donc le film a été mis entre parenthèses. J'ai fait un album à ce moment-là qui s'appelait À présent, en disant à tout le monde, bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'urgence. Je suis pas hyper attendu comme mec qui fait des films, donc il y avait pas de. Non, mais c'est vrai, c'était un truc en plus. Donc ça permettait de prendre le temps.
En revanche, vous êtes hyper attendu comme mec qui fait de la scène. Et ça, il faut le dire pour les gens qui connaissent pas Vincent Delerme, mais qui ont une image un peu genre bobo parisien de Vincent Delerme, quelqu'un de timide qu'on peut imaginer comme ça. C'est une bête de scène, Vincent Delerme. Il y a toujours une mise en scène dans les spectacles, des surprises.
Des spectacles à part entière.
C'est bizarre ce décalage entre votre apparente timidité,
blagues,
votre réserve et le show qui est un de vos concerts à chaque fois.
C'est vrai, quand j'ai commencé au début, il y a un moment où je me dis ah, c'est quand même bizarre que les gens aient cette image-là. Oui. Et puis maintenant, j'aime bien parce qu'en fait, les gens qui voient les spectacles, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui suivent, qui viennent. Et c'est comme une sorte de petite fête voilà, à laquelle tout le monde est convié. Et en même temps, dans la vie, par ailleurs, ça fait que les gens me laissent très peinard parce qu'ils disent voilà, ce mec-là, il a pas l'air très marrant. Donc ça fait une double vie qui est géniale.
C'est
une
pratique.
Vie très normale d'un côté, avec très peu de selfies pour rien. Par contre, non, c'est-à-dire que quand les gens viennent me parler, c'est toujours
pour dire des choses intéressantes.
Bah, pour dire en tout cas qu'ils aiment bien une chanson, qu'ils ont vu un spectacle ou que. Mais c'est jamais. En fait, je sais plus comment vous appelez, mais je voudrais faire une photo. Oui, ça c'est sûr.
Europe 1.
On reproche parfois à Olivier Pouls, notre expert gastronomie et art de vivre, d'être un brin old school.
Non.
De ne pas être dans la mouvance healthy, détox, éco-responsable.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment injuste. Et Bacar Pouls, c'est justement un pionnier du consommer mieux. Chaque jour dans sa chronique, il nous livre un conseil anti-gaspi.
Pour la recette, on va peut-être se contenter simplement d'un bourgogne ou d'un vin blanc sec traditionnel. Il vous faut à peu près une demi-bouteille. L'autre moitié, vous la buvez.
Et voilà.
Délice in extremis, votre recette anti-gaspi de dernière minute arrive juste après Moral of the Story H sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comme beaucoup de citadins ayant fui la ville pour se réfugier dans leur luxueuse résidence secondaire à la campagne, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, doit désormais composer avec la haine de ceux qui sont restés en ville. Parmi ces citadins frustrés, son collègue Axel de Darlay, qui écoute désormais ses chroniques, notamment la dernière sur la purée, avec une oreille beaucoup plus critique qu'avant. Écoutez.
Ces petits plats qui nous redonnent le sourire et qui nous...
Ouais, bah c'est la pub mousseline qui raconte, là.
Nous rappelle les bons moments de notre vie.
Quand je fais de la purée mousseline, moi je fais un puits dedans pour mettre du jus dedans.
Qui ne s'est jamais régalé de ça?
Beaucoup de la lune, hein.
Il découvre la lune. Bonjour Olivier Pouls.
Les off de pauvre, l'émission qu'on découvre.
Pauvre Axel de Tarlay, il doit être en train de manger des produits congelés, mal cuisinés, mal préparés. Si ça se trouve, il a même fait la file au McDo pendant 3 heures pour avoir un cheeseburger.
Allez savoir.
C'est bien possible. Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique délocalisé dans votre résidence bourguignonne actuellement. Et chaque jour, vous nous livrez une recette toujours aussi facile pour profiter au mieux du confinement.
Et expert aussi de la régression, puisque cette semaine, on se plonge dans le goût d'enfance. Alors, j'en ai sélectionné un qui me va droit au cœur, une proposition qu'on m'a envoyée qui me va droit au cœur. C'est le pain perdu. Alors, à destination d'Axel de Tarlay, mon cher Axel, prends bien note de ceci. Tu passeras comme ça une très bonne soirée avec un bon pain perdu bien régressif.
Anti-gaspi en plus.
Anti-gaspi, total anti-gaspi, puisqu'on peut le faire avec tout type de pain. Alors, le pain de mie, c'est le mieux parce que c'est celui qui absorbe le mieux la préparation à base d'œufs et de lait. Mais on peut aussi le faire avec de la baguette. Dans ce cas-là, il ne faut pas la trancher dans le sens de la longueur, mais plutôt dans le sens de la largeur pour faire des petits ronds. Mais l'idéal, le top du top, c'est la brioche. Parce que là, c'est encore plus gourmand, c'est encore plus jouissif et encore plus régressif. Alors, quelques belles tranches de brioche. Il vous faut 2 œufs. Alors, pour 2 œufs, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Mais pour 2 œufs, il vous faut 10 centilitres de lait plus 10 centilitres de crème liquide, 50 grammes de sucre. L'idéal, c'est d'avoir de la cassonade ou du sucre de canne. Mais bon, on peut aussi utiliser du sucre blanc. Moi, je rajoute une toute petite touche de vanille, mais on peut aussi rajouter une petite pincée de cannelle, c'est pas mal non plus. Alors, on va battre nos œufs, on va rajouter le lait, la crème, le sucre, on fait une jolie préparation avec tout ça, et on vient imbiber notre pain là-dedans. Alors, moi je le laisse même 30-40 secondes pour qu'il se gorge vraiment de la préparation. Deux manières de le cuire, le plus efficace et le plus simple, c'est à la poêle, une petite noix de beurre. Dès que la poêle est chaude, on vient poêler le pain perdu, on le retourne après 1 ou 2 minutes. Quand il a commencé à caraméliser, vous voyez qu'il y a une jolie petite croûte qui s'est faite dessus. Et puis, on le sert avec l'idéal, là encore, hein, si on a ça sous la main, une petite boule de glace à la vanille, c'est parfait, qui vient fondre
dessus.
Oh là,
ça me donne faim.
Mais, petite astuce aussi, on peut cuire le pain perdu au four, figurez-vous, ça marche
là,
aussi.
C'est pas mal, ça
un
aussi.
Four, voilà, vous mettez votre ange dans un beau plat qui va au four. Vous pouvez même reverser ce qui reste par-dessus de votre préparation et puis vous enfournez dans un four à 180 degrés.
Olivier, la chronique touche à sa fin parce que le curé s'énerve derrière vous.
Oui,
je sais que... On en est à 47 coups de cloche, ce qui ne correspond à aucun horaire connu. Recensé, c'est donc vraiment pour vous appeler, prendre l'apéro. On rappelle votre complicité avec le curé du village. Ce code secret que vous avez établi entre vous.
Oui, il va très très mal vivre le déconfinement, lui.
Ah mais oui, c'est sûr.
Il continue, vous entendez qu'il continue. 76 coups de cloche, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faudrait quand même vérifier.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Olivier, qu'on retrouve demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mayotte à 11h sur Europe.
Europe 1.
Comme disait Hélène Kohl, notre correspondante en Allemagne et ambassadrice du bon goût de notre émission.
Tout a une fin, mais la saucisse, elle en a deux.
Oui, l'équipe est sauvage, touche à sa fin. Qui sera élu chroniqueur du jour? Restez avec nous, la grande finale arrive, la grosse finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Si en ce moment vous êtes plutôt série au lit
et que même votre lit ne vous offre plus de rebondissement, alors nous avons des solutions. Retrouvez toutes nos idées d'inspiration et nos offres spéciales sur Ikea.fr. Comme par exemple, du 16 avril au 3 mai, la structure de lit banquette de place Brimness à 149€ au lieu de 199€. Et comme tout faire pour vous aider à être bien chez vous est plus important que jamais, nous garantissons la livraison chez vous en toute sécurité. Ikea.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, bah, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais bah, je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comme disait Platon à ses disciples, parmi lesquels Aristote sur les marches de l'Académie, on ne lâche rien les gars, on se bat jusqu'au bout. Achik, 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 aïe, 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 achik, aïe. Oui, en ces temps difficiles, Europe 1, radio ouverte, reste à vos côtés. Chaque émission se renouvelle en profondeur pour s'adapter à la crise que traverse notre pays. L'équipe est sauvage aussi tente de s'adapter à vos attentes. Même si je vous le dis tout clair, nous n'irons pas aussi loin que Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1, qui me confiait hier en antenne les changements qu'elle prévoyait pour son émission Sans Rendez-vous.
Nous, on sort les grands moyens, nous, sur Sans Rendez-vous l'année prochaine. Vous allez voir, ça va être... Je vais faire de la consultation en direct, du toucher rectal en direct.
Nous, promis, pas de gestes invasifs, juste de la culture et de la bonne humeur pour vous permettre de vous évader un peu. Justement, c'est l'heure de désigner Eva le vainqueur parmi nos quatre journalistes en compétition. Voici le kit au double. Chaque journaliste a 10 secondes pour plaider son dossier, comme d'habitude. Anissa Mbida, pourquoi voter pour vous et votre petite technique de la webcam smartphone?
Bah déjà qu'avec le confinement, on est en jogging pantoufle toute la journée. Et bien avec ma petite astuce, au moins, vous aurez une bonne tête et vous ne ferez plus tomber votre téléphone dans les tapas.
Oui, mais moi, ce qui m'écœure, c'est que vous, Anissa, même en jogging pantoufle, vous êtes sexy. Et ça, c'est vraiment une injustice de la nature. Fred Goetti, pourquoi voter pour vous et votre chronique sur les 40 ans des Blues Brothers?
Les Blues Brothers étaient en mission pour le Seigneur. Et moi, plus modestement, j'étais en mission pour toute la musique que j'aime. Seulement, voilà, Jean-Philippe Ballas m'a fait découvrir un trompettiste qui met les paroles en musique de façon inouïe et qui souligne. Alors perso, je vote pour
lui. Oh, c'est beau, c'est classe. Mais vous ne votez pas, ça tombe bien. Il ne faut pas compris les règles. 163e émission.
C'est pas classe,
Jean-Philippe Ballas, visiblement, votre chronique a marqué les esprits.
Ben moi, j'ai vu la lumière. Les Blues Brothers, ça fait partie de mes films cultes. Donc, votez pour Frédéric Goati. Qu'est-ce que je vous dise? Je te fais des bisous de loin avec un masque.
Le confinement, les amis, le confinement, ça vous a changé. Axel de Tarlé, vous n'avez pas changé, je crois.
Non, mais si. Un bon point pour Jean-Philippe Ballas, qui reconnaît que sa chronique était bien en dessous, inachevé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, il appelle à ne pas voter pour lui. Là, je dois tirer mon coup de chapeau à Jean-Philippe Ballas. Bon, pour ma part, j'ai fait une chronique sur l'immobilier. L'immobilier, c'est le sujet qui marche. Il n'y a qu'à voir tous ces magazines qui font tous les trois jours une. Alors, si je ne gagne pas, c'est que c'est personnel. C'est que le jury a quelque chose contre moi. D'ailleurs, ça va servir de test. Alors maintenant, je vous invite à voter. On va voir l'impartialité ou la partialité de ce jury.
C'est pathétique.
Axel, vous êtes formidable. Je vous aime très fort. Mais mon point, il va aujourd'hui à Jean-Philippe Ballas, son trompettiste. Jérémy Trompette, je vous invite à découvrir ça sur Internet. Les discours réinterprétés à la trompette jazz. C'était impressionnant. Un point pour Jean-Philippe Ballas. Eva, pour qui votez-vous?
Je suis bien embêtée. Je suis très très embêtée. Je vais donner mon point à Axel de Tarlé.
On sent que c'est un point un petit peu. On sent presque de la charité dans votre démarche.
Oui, c'est un peu ça.
Oui, je suis pas sûr qu'il le prenne bien. Romain Causer, notre réalisateur, vote lui aussi. Romain, qui accordez-vous votre point cet après-midi?
Alors aujourd'hui, mon point, Mathieu, je vais le donner à Anissa Mbida.
Comme c'est parti, j'ai cru que votre point, vous allez le mettre dans la gueule dans des concurrents, j'ai eu très peur. C'est Anissa Mbida qui repart avec votre point. On sent le côté sud-ouest chez vous, Romain. Alors, maintenant, c'est le public qui va départager nos champions.
Ça arrive très, 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 très rarement, mais là, il y a une égalité parfaite des votes. Donc, il y a deux candidats qui vont gagner deux points chacun. En l'occurrence, Fred Goati, deux points. Et oui. Et Axel de Tarlé, 2 points. Donc plus mon point, il gagne, il remporte cette
Axel
émission.
De Tarlé remporte la 173e journée de l'équipé sauvage. Le roi de l'immobilier a frappé. Je remercie mes confinés du jour, Eva Roque, Fred Goetier, Axel de Tarlé, Anis Elmida, Jean-Philippe Blas, tous vainqueurs.
Ils ont tous gagné des points,
sauf Olivier Pouls qui n'est pas en compétition. On embrasse Romain Causer et Rémi Duprat en régie, mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipé sauvage revient demain, bien sûr, 16h.